Alors, bonjour et bienvenue à ce sixième épisode de votre balado liquide. Salut Robert, ça va bien?
Oui, ça va très bien, Jacques.
Oui, ça va bien, excellent. Donc, pour vous dire, on est encore une fois en direct d'un studio d'enregistrement pour le confort des oreilles de tous. Et j'en profite pour vous dire, donc c'est l'arrivage numéro 6. Le septième arrivage se fera aussi avant les fêtes. Après ça, on va prendre une pause pour revenir en début février. Et donc, c'est ça. Donc, un arrivage en novembre, il reste un arrivage en décembre. Et j'en profite pour vous dire deux choses. Premièrement, si jamais vous trouvez que deux sacs de six, c'est pas assez pour le temps des fêtes, le dimanche 4 décembre, on va faire un salon des vins qu'on va vous accueillir au restaurant. Vous allez pouvoir déguster certains produits qui ne font pas partie de des arrivages que vous avez de la Société des liquides. Donc, vous avez probablement déjà reçu vos invitations, mais vous n'avez pas encore acheté des billets. Bien, il reste encore de la place. Et aussi, je pense qu'on a déjà envoyé la communication, mais pour l'arrivage de février, on va prendre un peu plus de membres avec le club de vin. Donc, est-ce qu'ils ont déjà reçu une communication?
Il y a des gens qui ont reçu une communication puis qui ont déjà passé la bonne nouvelle.
Le flambeau.
On a déjà pas mal de réponses positives. On n'oublie pas qu'on voulait vous gratifier, vous remercier en fait de votre support. Quand vous recommandez une nouvelle personne à la Société des liquides, juste nous aviser, ça nous fera plaisir de vous remettre une carte cadeau de 100$ valide chez Cerise, qui est notre buvette, qui aimerait bien vous connaître.
Excellent. Donc ça, c'est super bon. C'est des bonnes nouvelles. Donc, comme Robert dit, faites juste nous transférer le nom, le numéro d'abonnement de la personne qui a joint la Société des liquides. Donc, pour février, on risque d'être probablement essayer de doubler le nombre de membres que nous avons actuellement. D'entrée de jeu, je te passe la parole, Robert, pour un domaine qui a fait du chemin, un vin aussi qui a fait du chemin. Avec les nouveaux enjeux de transport, ce vin qu'on vous présente aujourd'hui a été commandé en janvier. Il provient d'Afrique du Sud et pour vous donner une idée, avant qu'il soit disponible pour nous, il y a eu le temps d'avoir l'été, on a eu le temps d'aller en Afrique du Sud, de revenir d'Afrique du Sud pour qu'il soit libéré en début novembre. Donc, je me plais à dire que certains vins ces temps-ci prennent plus de temps à voyager, à faire le voyage que les premiers explorateurs. Donc,
en effet, ce vin qui est de Madame Lucie que vous allez avoir en bulle méthode Cap classique que je vais ouvrir pour le plus grand son de vos oreilles, excusez-moi, on va voir.
Quel beau son.
Quel beau son. Hein. Ce son, pour ceux que ça intéresse, n'est toujours pas breveté. Alors, si vous avez... sachant que Harley Davidson a déjà réussi à faire breveter le son de ses motocyclettes, certain que si vous voulez vous colter au champenois, ce serait une bonne façon de faire travailler des bureaux d'avocats, ça, de breveter le son du bouchon de liège qui expulse 5 barres de pression. Alors, trêve de plaisanterie, on est en Afrique du Sud, comme Louis-Jacques dit, cette méthode du cap classique, la Madame Lucie, qui est bardée d'un beau petit caniche sur son étiquette, en fait. D'ailleurs, si vous avez des amateurs de vin et qui ont aussi des affinités canines, ben, vous pourrez leur suggérer ce magnifique MCC. C'est quoi un MCC? C'est une méthode du cap classique. Et c'est une méthode, comme la plupart des pays ont tâté de la bulle. Les Sud-Africains l'ont fait aussi. Eux ont fait ça en 1971, pardon. Et la première fois que ça a été fait, c'était avec du pinotage et du chardonnay. Ce n'était pas grandiose. On s'est repris et en 84, on va utiliser des cépages champenois, donc du pinot noir et du chardonnay. Et ultimement, la champagne, une fois que l'apartheid va être mis de côté en Afrique du Sud, la champagne va s'occuper de récupérer son nom et les gens de l'Afrique du Sud devront changer la nomenclature pour ne pas utiliser le mot champagne. Donc, on utilisera la méthode du cap classique. Le roi du MCC, c'est Graham Beck en Afrique du Sud, qui est vraiment la personne qui a mis ça sur la map au niveau de l'exportation. Il faut savoir que la plupart des vins ne sont pas exportés, ils sont bu localement, c'est une très faible production. Et dans ce cas-ci, donc, Gabriel Skloof avec Peter Findlayson qui nous donne une variété à base de 55% de chardonnay, 45% de pinot noir. On est vraiment sur des arômes, ou c'est l'inverse?
C'est l'inverse.
55 chardonnay, non, c'est 55 chardonnay, je crois.
Mais là, je ne veux pas te contredire, mais sur le petit collerette, c'est 55 pinot noir, 45 chardonnay pour le millésime 2019. Donc, peut-être que sur d'autres années, les pourcentages...
Ok, j'ai inversé. Bref, tout ça pour dire qu'on est vraiment sur un champagne pas un champagne, une méthode du cap classique qui est assez traditionnelle au niveau des arômes. On a vraiment les côtés levurés, on a la brioche, on a la pêche, on a vraiment un beau nez. C'est très, moi je trouve ça très très classique. La bulle est super intéressante, c'est fin. C'est dégorgé, il faut savoir que c'était dégorgé au printemps 2021 pour nos soins. Et c'est un champagne qui a fait quand même 18 mois d'élevage. Donc une bulle assez, assez fine, assez précise. On va déguster ça.
C'est vraiment très élégant. On est vraiment pas très loin de la trame aromatique d'un champagne. Là, ouais. Donc, et juste qu'on, comme Robert disait, la nomenclature champagne étant très protégée et plusieurs appellations d'origine étant très protégées européennes, l'Afrique du Sud qui font des émulations de ces choses-là, ben, dans les 15 dernières années, ont vraiment mis d'avant le mot cap. Donc, pourquoi? Ben parce qu'on est au cap occidental qui représente 95% de la production de vin en Afrique du Sud. Donc, que ce soit le cap classique en mousseux, le Cape Ruby, le Cape Vintage dans des styles Porto. Donc, c'est une façon originale, si je peux me dire, de mettre d'avant un produit qui se fait en Europe, mais qu'on est capable de produire aussi de façon très, très qualitative. Là, franchement, c'est super intéressant. Et dans un rapport qualité-prix incroyable.
Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ça, c'est en bas de 40 $. Comme je disais, c'est des produits qui ne sont pas nécessairement abordables. Même à la SAQ, je pense que les premiers MCC sont à 30 $. Là, puis on parle de MCC un petit peu plus bullaire, en fait, qu'on a une bulle un petit peu plus vulgaire. Là, dans une bulle assez fine. C'est vrai, moi, quand on évalue ces produits-là, en fait, ces vins-là, ce qu'on évalue surtout, bien, c'est les arômes et la bulle. Et quand vous avez une bulle aussi fine, mais aussi comme diffuse, bon, on sent que l'élevage était très, très bien fait. Alors voilà pour vos premiers relents des fêtes.
C'est peut-être pas la bulle à 8 fraîches, par contre. C'est peut-être
Non. Moi, vous voyez, ça, justement, c'est une bulle de fin de soirée, en fait. Une bulle, ouais. un petit peu coquine que je prendrais peut-être avec un grilled cheese, un beau fromage bien fondu. Le gras va bien baliser la bulle. Et les arômes, justement, fermentaires vont s'en trouver regaillardis par le pain.
Et là, vite, là, comme ça, à brûle pour point, là, je me permets quelque chose parce que je sais que des fois, on lance des recettes en l'air, puis ça marche. Là. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui me sont venus avec la fameuse caprese du Québec. Là. Vite comme ça, si vous le prenez en apéro, moi, ce que je ferais, là, ni plus ni moins, une trempette chaude fromage artichaut avec des tortillas, là, chips et champagne, là, chips et mousseux, c'est comme un accord classique. Là. Mais donc, tortillas de bonne qualité, là, donc avec le côté craquant du maïs sucré avec une trempette aux artichauts et fromage là, chez d'enfants, là, ça serait super intéressant.
Tu vois, moi, je la garderais peut-être plus pour la fin du repas. Aussi. Je trouve vraiment qu'elle est quand même, c'est un vin qui est assez potent. Là. C'est pas un vin qui est taxé sur la fraîcheur, c'est un vin qui est très gastronomique.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est juste que certaines personnes, des fois, en fin de repas, oseront pas faire ça, mais effectivement, il y a des très beaux accords à faire en fin de repas, que ce soit avec des fromages, des desserts même aussi. Il y a des beaux trucs, là, mais pour ceux qui diraient, j'oserais pas le prendre en fin de repas, en apéro, si on n'a pas d'huîtres, ben, ça va pas avec les huîtres. Je lance quelque chose comme ça avec lequel ça pourrait aller.
Et je tiens à m'excuser à tous les gens qui ont essayé de trouver du filet de sole de Douve et qui ont réalisé que c'est un poisson qui était très, très, très cher ou pas du tout disponible. Vous pouvez faire la sole de Douve avec un autre poisson blanc, plat, idéalement un peu moins cher.
Et aussi, tu parlais aussi de prix. Il faut comprendre une chose, lorsqu'on quitte la Champagne puis on exclut les Prosecco de ce monde parce que c'est pas du tout le même exercice de style, bien entendu que la mousseuse méthode traditionnelle qu'on va souvent préconiser, qu'on va voir le plus sur notre marché, c'est le fameux Cava, le bon vieux Cava qu'on trouve en Espagne peut être fait, oui, avec des pinots noirs, des chardonnays, mais c'est souvent sur des grandes cuvées, mais dans l'entrée de gamme, c'est d'autres cépages, mais on n'est pas du tout là dans le style. Sachez par contre que la Catalogne et l'appellation Cava utilisent des fonds de l'Union européenne pour avoir un prix compétitif à l'export. Et ça, on s'était fait dire ça justement par Ken Forrester, qui est une figure importante dans le milieu de l'Afrique du Sud. Et on lui parlait justement comment se fait-il qu'on ne voit pas beaucoup de méthodes cap classiques sur le marché export et à des prix intéressants. Il dit, c'est un produit qui est un peu exclusif, qui est coûteux à produire. Même si on a à peu près les mêmes technologies que l'Espagne et la Champagne ont, les gyropalettes, tout ça, La Champagne ben, est iconoclaste de par son prix et ben, une bonne portion des producteurs de cava vont travailler un prix très, très compétitif, mais financé par de l'aide de fonds européens. Et l'Union sud-africaine n'a pas ses sous-là pour
ça. Non, ils mettent ça ailleurs en ce moment. Exact. OK. Louis, prochain vin, Un Monde à Soi.
Non, on va faire le Verdicchio. Donc, Verdicchio di Matelica avec le domaine Bici, je ne sais pas si je le prononce bien, sur le millésime 2021. Et je suis très content de présenter un Verdicchio dans le club de vin. Je pense que le rôle d'un bon sommelier, c'est d'être un guide, mais le défi lorsqu'on sent des clients, bien, c'est de, un, être à l'écoute de leurs besoins, mais après ça, au-delà de ça, si on sent que à travers ses besoins, bien, le client il a envie de se faire projeter ailleurs de ce qu'il connaît, bien, c'est notre travail, nous, en tant que sommelier, de découvrir des petites pépites. Et au point où la globalisation du vin est rendue, bien, il y a certains vins de grande renommée qui ont atteint un point de bascule en matière de prix, ce qui fait en sorte que dans un contexte de bistronomie comme on a au Caviste, bien, on peut rarement maintenant proposer certains vins au verre. Et vous avez entendu parler à travers plusieurs canaux de communication, et notamment le balado, mais on célèbre 10 ans au Caviste. Moi, ça fait 9 ans que je suis là depuis septembre. Et je me souviens très bien, quand j'ai commencé au Caviste, ben, on pouvait se permettre d'avoir du Chablis, du Sancerre au verre. On était dans du 14 $15. Mais là, pour vous donner une idée, Chablis, Sancerre, ben, on est plus rendu à des coûts qui nous amèneraient à vendre les vins à 16-17 $. Donc là, on passe un point culminant où, que c'est pas intéressant, on pourrait mettre ça, mais dans un contexte de bistrot, on veut des vins un petit peu plus accessibles en termes de prix. Donc, le Verdicchio est comme notre ami très prédisposé dans le contexte d'avoir un vin qui va être salin, iodé, craquant, avec une belle trame d'acidité. Et je vous dirais que je me fais comme un devoir. C'est sûr que c'est pas un vin qu'on retrouve beaucoup encore sur le marché, mais c'est le genre de vin qui rapporte qualité-prix. Quelqu'un qui me dit « Louis, moi, j'aime le Chablis, j'aime le Sancerre, j'aime les vins qui sont assez crisp, assez frais. » Ben, c'est quelque chose qui est super intéressant. Je ne sais pas si tu sens ça dans ton verre, toi, Robert,
tout à fait.
De ton
moi,
côté.
Je suis vraiment toujours... Les blancs italiens, puis je le répète, c'est les gens italiens que je le répète, mais les blancs italiens, c'est toujours de la découverte et toujours en rapport à qualité-prix. Et si vous trompez, ça fait moins mal que se tromper avec un Sancerre ou un Chablis, justement.
Ouais.
Et c'est des vins que vous allez pouvoir sortir. Puis avec, pour vrai, vous googlez un petit peu, puis vous allez vraiment trouver souvent des histoires fort intéressantes et où une raison pour laquelle ce vin-là existe est avec quelle cuisine, parce que les vins italiens sont axés sur les régions au niveau de la cuisine. C'est toujours un lien très fort parce que les vins ne se sont pas mondialisés assez très rapidement. Ils ont toujours été vraiment destinés à un marché local. Et donc, dans ce cas-ci, le Verdicchio de Matelica, moi, pour vrai, on y revient pas assez souvent, c'est mon impression.
Mais il n'y en a pas beaucoup aussi. C'est assez difficile d'en retrouver, mais de plus en plus, les importateurs se rendent compte que c'est une appellation qui est très porteur. Donc, pour vous situer, Verdicchio di Matelica, appellation très importante des Marches, les Marches qui sont situées, qui fait partie du centre de l'Italie. Donc, les Marches, c'est où? C'est au nord des Abruzzes. La dernière sac, on vous avait présenté un Montepulciano d'Abruzzo. Donc, c'est au nord de cette région-là. C'est collé sur la Ombrie qui se situe à l'ouest. Et vous avez au nord des Marches l'Émilie-Romagne. Et c'est une petite région qui est collée sur la mer Adriatique qui amène ce côté salin-là. Le Verdicchio, c'est un cépage qui est originaire du centre de l'Italie. Donc, sa présence dans ce coin-là remonte au 15e siècle. Et va avoir un peu le même profil que le Garganega ou la Garganega qu'on retrouve dans le Soave, qui est un peu plus connu, l'appellation Soave. De quoi? Ben parce qu'on est en Vénétie, on n'est pas loin de Venise. Touristiquement parlant, on visite plus ce coin-là de pays que les Marches. Mais au même profil, on peut tomber dans des vins très, très dilués, un peu insipides. Mais lorsqu'on est sur les bons terroirs, on a des vins qui ont beaucoup de personnalité, comme Robert dit, qui... excusez mon anglais, là, mais c'est un terme qu'on... difficile à trouver en français, mais qui over-deliver, qui en donne plus que qu'est-ce que le client en demande. Et juste pour vous donner une idée, vous avez deux appellations en Verdicchio. Vous avez Verdicchio di Matelica et Verdicchio di Castelli di Jesi. On fait référence à deux villes qui sont une à quelques kilomètres l'une de l'autre, mais avec des terroirs assez différents. Le cépage en soi, c'est un cépage qui est d'un sensible au sol, qui mûrit lentement et bien et de façon uniforme. Et un mûrissement lentement et uniforme, ça permet quoi? Bien, ça te permet de développer du caractère puis de l'élégance dans le vin en partant. Et malgré tout ça, puisqu'il mûrit lentement, bien, il conserve naturellement une belle dose d'acidité tartrique. Donc, ça donne un vin qui est assez nerveux. Et pour vous donner une idée, là, Matelica Yeezy, il y a quand même deux profils un peu plus différents. Donc, on dit que les verdicules du Matelica vont avoir un petit peu plus d'acidité, plus de coffre et d'alcool. C'est un peu bizarre, mais comme je vous dis, vu que le niveau de maturité est échelonné dans le temps. Et Yeezy va être un peu plus léger, un petit peu plus floral. Donc, pour vous donner des trucs de sommelier, ça nous prend des trucs mnémotechniques pour le retenir. Matelica, pensez à Metallica. Groupe. Mais non, mais c'est beau profil. Et Yeezy fait référence à Jésus, plus délicat. Ça prend ces trucs-là pour retenir toutes ces choses-là. Donc, c'est un domaine familial qui remonte aux années 70. Et pour vous donner une idée, sur 20 hectares plantés, il y en a 17 qui sont consacrés qu'aux cépages verticaux. Et l'ensemble du domaine est conduit en lutte organique.
On mange quoi avec ça?
Oh, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Plusieurs choses. Ça peut nous porter de l'apéro jusqu'à la table. Oui, là, on a un truc qui va nous amener un peu plus avec les fruits de mer, les coquillages. Mais je serais tenté à dire, là, avec ça, avec une... On brûle pour point comme ça.
J'aurais fait une huître au gratin.
Ouais, huître au gratin ou les sushis aussi avec ça, ça pourrait être super bon.
Les sushis, ça peut être très bon. Ouais, t'aurais le sucre.
Ouais, le côté tranchant du sushi. Et si je peux faire un parallèle, là, justement, on va s'en aller sur le prochain vin vers l'Alsace et on va souvent faire des références au cépage alsacien et sushi. Et le vin alsacien qu'on a sur la suite, je pense qu'il est un peu moins sur un profil sushi en général.
Verdicule avec sushi, ça pourrait être intéressant. Le riz va amener une balise en bouche.
Et la sucrosité, le riz qui est assaisonné là, avec le vinaigre de riz, tout ça. Là. Ça pourrait être très intéressant. Et tartare de saumon des cavistes avec ça, là, on est en business. Là. Ce qui nous amène en Alsace avec le monde à soi, la famille Jomeyer, donc J-O-S-M-E-Y-E-R. Donc, il fait référence au patriarche de l'époque, donc la famille Meyer, qui est un domaine qui a été fondé en 1854 en Alsace. La dernière génération actuelle qui s'occupe du domaine, c'est des sœurs, c'est Céline et Isabelle Meyer, mais le domaine porte le prénom du patriarche. Donc, ça se prononce Jomeyer et non Jos Meyer. Hein. Donc, vignoble alsacien classique. On a une vingtaine d'hectares découpés en 90 parcelles. On fait 23 cuvées de vin. Donc, moi, je n'ai pas eu la chance encore de visiter l'Alsace, mais il y a beaucoup de gens qui disent quand tu sors d'une visite de domaine d'Alsace, c'est comme tu es à terre parce qu'on a tout ouvert. Il faut comprendre que l'Alsace fait des. Est un des rares. Ben, pas un des rares, mais un des rares endroits en France où on met de l'avant plusieurs cépages, mais en monocépage. Tu sais, versus, exemple, dans le Roussillon, dans le Languedoc, on a plusieurs cépages qu'on va utiliser, mais qu'on va assembler ensemble. Versus là, en Alsace, ben, on a du pinot gris, on a du pinot blanc. On a ça. Et on fait une cuvée parcellaire qui fait l'identité de chaque ça. Et à ça se rajoute, mais quand le climat le permet, une vendange tardive. Et si le climat le permet, une sélection de grains d'hommes. Donc, on sort, il paraît, d'une dégustation d'Alsace avec éventail de vins.
Si on faisait l'Alsace en atelier au Cavis, ça serait sur 3 week-ends, je pense.
Oui, exact.
C'est d'une complexité et c'est magnifique. C'est magnifique quand tu t'assois avec un Alsacien et qu'il te parle de ses vins et qu'il te présente sa cave, tu voyages et tu dis « OK, il faut que j'aille là parce que je ne sais pas combien de villages se
côtoient. » 51 grands crus.
51 grands crus, puis ils les connaissent tous avec toutes leurs particularités parce qu'ils sont là depuis des centaines d'années. Ils ont aussi très peu de chauvinisme viticole parce qu'ils ont été allemands, français. Ils sont impressionnants, les Alsaciens, de par leur rigueur et aussi leur façon d'être passé à travers tous ces obstacles-là pour continuer à produire du grand blanc. Et là, on va se le dire, c'est pas la mode de boire de l'Alsace.
Effectivement.
Et pourtant, c'est assez pour te réconcilier, je pense.
Alors, oui, exact. Donc, vous remarquerez que sur cette étiquette-là, il n'y a pas de mention de cépage, il n'y a pas de mention de millésime. Donc, comme je vous disais, en grande cuvée, on va avoir la pratique courante de faire des monocépages avec des expressions de terroir et aussi expressions de densité de sucre. Par contre, dans l'entrée de gamme, si je peux me permettre, dans le vin plus festif, Quoique c'est pas, selon moi, je ne rentre pas ça dans des vins de soif. Là. On a pratique courante de faire des assemblages. Donc ici, on a un petit peu de pinot blanc, on a un peu de qu'on appelle souvent auxerrois aussi. Si vous voyez auxerrois sur les mentions de bouteilles, il y a un peu de pinot gris, un peu de Riesling. Et en Alsace, ben, on a cette, un peu comme on retrouve en Allemagne puis en Autriche, des grands foudres, donc des grandes barriques de bois qui existent depuis très longtemps. Les foudres chez Jomeyer remontent à, il y en a qui ont 100 ans d'âge. Et on va rassembler la, toutes les cépages là-dedans, les faire fermenter dans le but de créer un exercice de style. Et le cuvée Un monde à soi, ben, c'est ça, c'est un exercice de style avec un vin qui a quand même beaucoup d'opulence, qui est sec. On a souvent peur avec l'Alsace, avec les sucres résiduels. Sachez que pour certains, je ne sais plus à partir de quel millésime, mais un peu comme l'Allemagne, on va avoir les nomenclatures secs sur les bouteilles. Il y a certains vignerons qui le faisaient de par eux-mêmes, mais je pense que c'est maintenant rendu... une obligation ou fortement recommandée. Donc là, on est sur un vin qui est sec. Et là, en ce moment, nous, dans notre verre, on le boit pas trop froid. C'est pas un vin que je recommanderais à servir trop frais. C'est un vin que je recommanderais aussi à carafer. La famille Jomeyer travaille avec les levures naturelles, très peu de sulfite, les fermentations. Comment?
Un petit peu de réduction.
Il y a un petit peu de réduction. Il y a une légère acidité volatile. Et là, entendez-moi bien, l'acidité volatile, il faut faire attention. À petite dose comme ça, ça devient un précurseur d'arôme, donc ça amène le vin à d'autres. Acidité volatile, c'est quoi si on se rapproche du vinaigre et de l'acide acétique là? Mais on n'a pas ça là-dedans. Mais à petite dose, l'acidité volatile qu'on peut retrouver sur certains vins blancs d'Alsace ou certains vins en Amarone, la Valpolicella, ben, ou donc les vins qui vont avoir passerillé, ou, ça travaille comme un précurseur d'arôme. Et le côté champignonné que vous avez au nez, là, mais ça, c'est ni plus ni moins, ça nous dit que certaines grappes de raisin qui ont été récoltées ont connu un peu de botrytis, un peu de surmaturité. Quoiqu'on est à 13% d'alcool, donc c'est un exercice de style, des raisins qui sont récoltés en sous-maturité, maturité optimale, surmaturité, et ça crée ce beau portrait-là. C'est un vin qui est très, très complexe. Il y a beaucoup d'umami dans ce vin-là. Il y a un côté très sapide, un côté... Les cristaux, j'oublie le nom, là, mais quand on coupe un Parmigiano-Reggiano, là, les cristaux de sel, on pense que c'est du sel, là. Mais je cherche le nom, c'est quoi qu'il y a dedans. Mais il y a ce côté-là dans ce vin-là. Et c'est pour ça que moi, ce vin-là, souvent on fait un parallèle, sushi Alsace, là, je ne suis pas là du tout. Moi, je serais sur un beau plateau de fromage. Là.
Ah, moi aussi, je voyais le fromage.
Beau fromage bien ouais. Chambré, mm-hmm. Avec un beau pain au levain. Là,
Mais tu vois, ce week-end, on a fait un brie cuisiné là, avec les noix.
Mm-hmm.
Je pense vraiment que ça parlerait
avec les noix, effectivement.
Du Grenoble, chauffé, là. Très années 90 encore, là, les gens commencent à savoir quel âge j'ai. Mais vraiment, je pense que ça irait très, très bien avec ça.
Ouais, ou vous faites une tartiflette ou
ouais, une tartiflette
avec ça, ça serait bon, super.
Ça, avec le suite du repas, il y avait une tartiflette.
Mais bref, super beau produit et domaine, comme je vous disais, qui est certifié en lutte organique et biodynamique également. On reste sur l'Europe, Robert, donc
oui,
on s'en va où? En Espagne, je pense?
On remonte en Espagne, on s'en va avec une maison que vous avez croisée lors d'un arrivage précédent.
Oui, en blanc.
Le
Godello.
Godello que j'ai rebu ce week-end, justement avec le fromage fondu. Ça faisait aussi un bon okay. travail. On est à Monterrey, encore une fois, avec la maison Benito Santos. Si vous êtes amateur de Pinot Noir, si vous êtes amateur de Cabernet Franc, ben, le Mencia, ça va peut-être devenir votre meilleur ami
ouais.
Parce que vraiment, on est capable, dans certains cas, là, il y a plusieurs types de Mencia, il n'y a pas juste un chien qui s'appelle Fido, mais il y a des Mencia comme les Mencia de Monterrey ou même certains Jaén, parce qu'au Portugal, il s'appelle Jaén, le Mencia, certains Jaén qui vont être capables de vous donner cette tension, ce côté à la fois tannique, mais avec des fruits rouges assez précis, qui va vous rappeler ces pinots d'entrée de gamme et ces cabernet francs de saumure champigny, mettons. Et donc, encore une fois, ce vigneron Benito Santos...
En qui, fait, excuse-moi, je te coupe vite fait, le cabernet franc qui est originaire de Galicie en plus, donc qui est originaire de ce coin-là. Donc, il y a peut-être, on ne sait pas les recherches, là, mais il y a peut-être un cousin germain. Là, de...
Alors, Monterrey, c'est vraiment... une région qui borde le Portugal. Vous avez le fleuve Minho qui monte et qui va traverser justement à gauche, vous allez avoir Riage Baxas. Riage Baxas est coincé entre le Minho et l'Atlantique. Vous allez continuer, vous allez monter dans Ribeiro et Ribeira Sacra. Et si vous venez plus au sud-ouest, ben là, vous allez avoir Monterrey. Monterrey, c'est deux terroirs distincts. Vous avez ce terroir qu'on prend en photo là, qui est très pentu, où les moines cachaient leurs vignes pour pas que les brigands viennent les ramasser leurs raisins alors que les moines ne s'en occupaient pas. Donc, c'est des vignes qui sont à flanc de coteau, très, très escarpées, qui suivent justement une rivière, et vous avez des vignes un peu plus en plaine, et donc c'est ces vignes-là où on va généralement planter un peu plus le rouge, alors que le Godello va être plus en inclinaison. Vous avez donc ce Mencia qui, auparavant, parce que dans cette région-là, c'était pas nécessairement rentable de faire des vins, beaucoup de ces Mencia-là, s'en allant en cap coopérative, étaient un peu dilués, faisaient des vins très minces, très un peu un style pêcheur, un style paysan. Et tranquillement, de plus en plus, il n'y a pas beaucoup de winery dans cette appellation-là, mais les 27 ou 28 winery qui travaillent vont chercher à avoir un style un peu plus précis où on va mettre le cépage de l'avant, où on va mettre la qualité du raisin de l'avant. Et tranquillement, on a accès à ces vins qui sont beaucoup plus intéressants qu'ils l'étaient. Moi, c'est un vin, oui, passe partout à la limite, mais qui va très bien suivre un repas justement du dimanche. Le Godello, on l'ouvre justement avec un membre du club de vin ce dimanche, comme ça, sans raison apparente, mais ça se buvait très bien et ça accompagne très bien un repas où, je veux dire, on cherche juste du réconfort. Ce Mencia-là, belle structure tannique, une certaine astringence, les tannins, excusez-moi, sont très fondus, une certaine astringence qui va nous donner le goût de continuer à manger, continuer à parler, continuer à passer un bon moment à table. C'est vraiment, pour moi, cette maison-là, Benito Santos, c'est à chaque fois qu'on l'importe, c'est du réconfort. C'est vraiment bien fait. Peu d'alcool aussi, on est vraiment à 13, je pense qu'on est à 12,5, mais vraiment très bien. Quelque chose
à... Non, mais tu parlais de vin du dimanche, là, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis bien, bon, on est en Espagne, mais on est au Québec, on est une société distincte et ouverte. C'est un vin de spécialité italienne aussi.
Ouais.
Je veux dire, plat de pâte, tomaté, ouais. Ça va être super bon.
J'avais mis une pâte aux légumes grillés avec ça. Vraiment, c'est... légumes... Tu vas aller chercher le petit côté toasté du... Pas toasté, mais char, là, le petit côté charcoal, là, mais sur des légumes, pas de la viande. Puis une pâte pour amener un petit peu, donc tu as aussi un petit peu de grand bouche là, pour le baliser un petit peu plus, puis l'arrondir, parce que... et c'est un vin que j'ouvrirais peut-être une demi-heure, 45 minutes avant.
Oui, tout à fait. Servez frais, par contre. Quand on vous parle d'ouverture un peu de temps, là, non, mais des fois, on ouvre un peu longtemps d'avance. Ayez toujours en tête de garder une température de service adéquate, là, parce que le vin peut tendre à se réchauffer. Là, mais effectivement, c'est des vins qui sont faits en finesse, en élégance. Donc, on va des fois peut-être travailler avec un peu de réduction. Donc,
on continue.
On continue avec... Je vous ai mis Carignan sur la liste. Carignan, trois petits points. Parts and Labor, Folk Machine, Santa Rosa de Hobo Wine Company. Hobo, exactement. Donc, c'est un super vin. Je me suis amusé ce matin à faire un parallèle parce que c'est une bibitte californienne comme il s'en fait de plus en plus. Mais comme il s'en fait, par contre, depuis quand même un petit bout de temps. Et tu sais, souvent, les gens qui vont dire que la Californie, c'est alcoolisé, c'est surextrait, c'est boisé, tout ce que je viens de vous nommer là, c'est tout sauf ça dans ce vin-là. C'est un vin de soif, c'est un vin frais, c'est un vin craquant, c'est gourmand, c'est des cépages rhodaniens, c'est 12% d'alcool, il y a de la grappe entière, c'est super intéressant. Et là, Robert, avec ce vin-là, je nous permets d'un petit passage au travers du temps. Maintenant que Donald Trump est derrière nous, encore pour 2 ans au minimum, on peut se reconcentrer et se focusser sur la Californie, qui est, ma foi, une région fabuleuse, un coin de pays fabuleux, qui est quand même le 4e plus gros producteur de vin au monde, quand on isole. Ouais. Les États-Unis, c'est le 4e plus gros producteur au monde. Si on enlève tous les autres provinces...
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que la Californie aux États-Unis. C'est un petit peu mince avec l'Oregon.
L'Oregon, Washington, c'est des crottes. Et New York aussi. Ouais. Là. Ailleurs, le cinquième État, le Texas produit plus de vin que l'Oregon. Donc, Robert, on se projette dans le temps un peu pour comprendre d'où vient ce vin-là. Car à mon sens, il présente...
On recule.
On
recule ou on se projette?
On se projette et on recule. On recule dans le temps. Parce que c'est un vin qui représente une nouvelle génération d'un concept qui est parti plus longtemps que je pensais. 15 avril 1987, Robert, tu buvais quoi et t'avais quel âge?
Moi, je buvais probablement du Nobella au litre. J'avais 17 ans.
17 ans. Et qu'est-ce que tu penses?
Un jour, on va dire ce qui s'est passé avec le Nobel.
C'est drôle, on a parlé de ça la semaine dernière. Et selon toi, je fais référence à quoi si je parle de Californie? 15 avril
1989. 89 ou 87?
89. 89
en Californie. Reagan?
Quoi?
Reagan?
Ah, pas politiquement. Ah, sur, okay. Le
sais, sur le vin. Sur le vin, je sais pas. T'as un petit peu... Qu'est-ce qu'il y avait en 89? Je sais pas.
Je m'attendais à ce que ce soit plus récent que ça, mais c'est le jour où Randall Graham fait la devanture du magazine Wine Spectator,
ah ouais,
déguisé en Lone Ranger avec son, ah ouais, cheval, okay, blanc. Ouais.
Wow.
Donc, et donc, couverture, c'est mythique. Oui, exactement. Donc, le Lone Ranger, ce personnage de bande dessinée qui se promène dans les contrées lointaines avec son cheval blanc. Donc, Randall Graham déguisé en ça. Qu'on va surnommer le Lone Ranger. Et pourquoi le Lone Ranger? Parce que c'est un de ces vignerons, nouvelle génération de vignerons à l'époque, qui se dit, écoute, on a des super cépages rhodaniens qui ont été plantés massivement. Il faut savoir que la Californie, ça remonte à quand même longtemps là, au niveau de la production vitivinicole, et qui commercialise en 86 son premier millésime de cigare volant, ouais, qui est 1984. Moi, je pensais que c'était le tournant des années 90. Et avec d'autres vignerons, vont former un mouvement qui mettent de l'avant les cépages rhodaniens, d'où le clin d'œil au terme Lone Ranger. Ces cépages qui rôdent, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, sur une bonne partie de la Californie, mais trop peu exploités depuis ces 15 dernières années, avec la mouvance du jugement de Paris de 1976. Donc, si on se projette un peu dans le temps, cette dégustation à l'aveugle mythique-là, donc fait en sorte qu'on déguste à l'aveugle des vins en France, avec les plus grands cabernets de Californie, les plus grands cabernets de Bordeaux. Et on fait la même chose avec les chardonnays de Californie et les chardonnays de la Bourgogne. Et tiens donc, les deux vins qui sortent en premier, c'est deux vins de Californie. Donc, l'histoire après ça se tourne, si vous voulez écouter le film Dégustation Choc. Non, non, non. Si vous écoutez le film Dégustation Choc, ça adresse bien l'histoire un peu de tout ça. Mais bref, ce post-prohibition, ce jugement-là vient vraiment faire la consécration qualitative des vins californiens. Par contre, sur un focus qui est Cabernet Sauvignon et Chardonnay. Fin des années 80, les Lone Ranger vont sensiblement dominer durant une bonne partie des années 90 avec un style qui est amené plus sur les cépages autres que le Cabernet et le Merlot. Et après ça, ben, faut comprendre que ces cépages-là vont se maintenir, vont continuer à se produire, mais c'est frité un peu. Pourquoi? 13 septembre 2004, Robert.
Robert Parker, je sais pas.
Comédie satirique du nom de Sideways.
Ah, OK, oui, oui.
Qui va gagner. Non, mais on s'intéresse.
C'est-tu le Merlot, là?
Non, mais c'est ça. Oui, mais le Merlot. Donc, comédie satirique du nom de Sideways qui gagne un Oscar.
Mm-hmm.
Qui, tout au long du film, ces deux garçons-là s'amusent à bâcher le Merlot. Donc, on est tué un cépage bordelais qui est le Merlot, mais pas au détriment des cépages rhodaniens, au détriment de quoi?
Du Pinot Noir.
Du Pinot Noir.
À l'avantage du Pinot Noir.
À l'avantage du Pinot Noir. Donc, tout le début des années 2000, un focus complet sur le pommier, sur le Pinot Noir. Et je vous dirais que les 10 dernières années, je pense qu'on voit l'arrivée de deuxième génération de ces producteurs-là qui vont avoir un focus sur les cépages rhodaniens, un peu comme les Lone Ranger faisaient dans les années 80. Et cette génération-là, pourquoi va se concentrer là-dessus? Ben, ni plus ni moins que la consécration des années 70 va venir cristalliser Napa Sonoma, qui devient plus accessible du tout, ouais, en termes de prix, parce que le prix à la tonne est focusé sur du Cabernet Sauvignon, du Merlot, un peu de Zinfandel et un peu de Chardonnay. Le Pinot Noir vient se cristalliser exactement sur tout ça. Et reste Central Coast, Central Valley, où on a ces cépages-là qui sont vendus pour une bouchée de pain pour faire des gros vins de volume. Et là, vous avez ces générations-là de vignerons, un peu comme Obo, Wineco, qui s'est fondé dans les années 2000, qui disent, écoutez, là, on va surenchérir sur des vins qui sont vendus en vrac. On va aussi prendre en charge le fermage, s'assurer de baisser la qualité.
Et genre de négoce là, qui s'installe.
Du micro-négoce, exactement. Donc, je n'ai pas les moyens de m'établir dans les grandes appellations. Par contre, Central Coast, Central Valley, en tant que quatrième producteur de vin au monde, ben, c'est là que le volume est fait. Mais ce n'est pas parce qu'on fait nécessairement du volume qu'on n'a pas nécessairement accès à un bagage génétique intéressant au niveau de la qualité du raisin. Et ben, je pense que moi, boire ce vin-là...
C'est intéressant. Ça me surprend que tu n'as pas voulu donner la télé Californie cette saison.
Mais, qui sait, on la rajoutera peut-être. En...
Mais pour vrai, c'est vraiment très étonnant. C'est tellement atypique, je pense que pour les gens qui ont des gendres qui se plaisent à haïr la Californie, ça pourrait te servir à l'aveugle de façon spectaculaire parce que c'est pas du tout californien. C'est super léger. C'est vraiment très digeste. Moi, je me demande si j'aurais pas mis à Valmentia.
Qu'on puisse s'échanger mais effectivement, on aurait pu les intercaler. Mais effectivement, mais il faut savoir qu'on n'est pas ici pour faire de politique, mais pour vous donner une idée. Je n'ai pas boudé dans mes choix de vin, je ne fais pas de choix éditorial. J'ai toujours continué à déguster du vin californien, américain pendant les 4 dernières années, mais je vous confirme d'une perspective d'une personne qui sert du vin sur le plancher. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'est tournée contre le vin californien à cause du président américain qu'ils ont eu pendant les quatre dernières années.
Mais aussi les prix. Hein? C'est-à-dire que les Californiens ont sauté dans les tendances du marché. Tous les grands vins californiens sont maintenant sur l'Asie. Hein? Je veux dire, la Chine achète les grands vins californiens. Et quand il y a eu le ralentissement en 2008, on a senti un petit retour du balancier, mais pas suffisamment, parce qu'avant, on mettait la main sur des vins californiens de renom, de grandes maisons, en bas de 100$, maintenant, c'est impossible. Mmh. Je veux dire, un, t'en as pas, puis deux, quand t'en as, ben, écoute, c'est 150-200$. Tu sais, qui ouvre une bouteille de vin à 200$ dans un restaurant coûtant, là, je veux dire, donc ça arrive à 500. Fait que, effectivement,
bon, mais d'abord, je t'annonce en primeur, là, après le week-end des vins rosés, on ouvre une date. Atelier Néo-Californie.
Néo-Californie, parce que...
Que je vais donner avec grand plaisir.
OK. Alors, c'est l'encépagement, oui? Tu m'as parlé.
C'est un assemblage, là, mais ni plus ni moins, si je ne m'abuse, c'est Carignan, Grenache avec un petit peu de Syrah ou un peu de Mourvèdre. C'est Syrah, Carignan, Grenache, macération en grappe entière, macération carbonique, élevage en foudre et en cuve d'inox. Donc, c'est ni plus ni moins une émulation d'un vin du Languedoc-Roussillon.
OK. C'est très intéressant.
On termine avec Bordeaux.
Oui, mais moi, je vois le retour du balancier, justement. On s'en va à Bordeaux où on est beaucoup moins porté sur l'innovation. On vous sert, mais ce n'est pas un défaut hein, d'être traditionnel. Là. On vous sert le Haut-Guérin 2019 qu'on a déjà importé, je pense, en Blayais.
C'est notre deuxième arrivage.
C'est toujours très bien fait. C'est toujours... Moi, je me plais à servir des côtes et des appellations de la rive droite qui sont moins connues, comme dans le Blayais, c'est un bon exemple. On a une prédominance de Merlot, évidemment, 70%, et le 30% restant, c'est du Cabernet Franc. Le Blayais, c'est quoi? C'est vraiment ce qui est devant le Médocain, de l'autre côté de la rive, et c'est plus la Charente-Maritime. En fait, c'est moins bordelais presque que dans le cognacais. Hein. Je veux dire, le cognac est derrière ces propriétés-là. On est sur un vin excessivement classique qui, vraiment, le rapport qualité-prix est extraordinaire parce que ça c'est vraiment peu cher. C'est notre vin le moins cher, je pense, aujourd'hui, à 26$.
Mm-hmm.
Et ça fait vraiment un beau travail. Il est en ce moment qu'un raviné, donc il n'est même pas ouvert, puis ça respire de façon
spectaculaire.
Le bois est super bien intégré. Il faut savoir que c'est la famille Courault, en fait, ce sont deux négociants qui sont des arrière-petits-fils du propriétaire du château Haut-Guérin. Le château existe depuis 1871 et ces deux négociants-là travaillent leurs 30 hectares de façon assez précise. Ils ne font pas que ça, c'est des négociants. Hein? À Bordeaux, les négociants, c'est des gens d'affaires. Mais probablement qu'ils ont accès à des œnologues conseils très, très qualitatifs pour arriver à sortir autant de matière et de précision dans un assemblage de Merlot qui aurait pu être un petit peu plus corpulent, sachant aussi que ça a fait 8 à 12 mois de fût de chêne. Mais c'est super maîtrisé. C'est vraiment très, très droit, c'est très flatteur, même comme Merlot, c'est pas du tout tannique, évidemment, là. Et donc, on goûte à ça. Ouais, le fruit est vraiment bien intégré.
C'est super.
Je le laisserai, je ferais peut-être faire un petit coup de carafe, mais rapide, juste pour le polir un peu. C'est un petit peu poussiéreux, à moins que ce soit mon verre, mais un petit coup de carafe rapide pour le polir et il va être à son pic. Avec ça, toi, Louis, qu'est-ce que tu en penses? Excuse-moi, avant que je dise avec quoi je le mangerais.
Je me permets juste, c'est 70 Merlot, 30 Sauvignon. C'est pas Cabernet, c'est 30% c'est Cabernet Sauvignon. Ah oui.
Ouais. Donc, je suis vraiment.
Mais c'est correct, je suis retourné voir sur la fiche technique qu'on avait reçue. Là.
Cabso, OK.
Oui. Qu'est-ce qu'on mange avec ça? On parlait de ragoût de boulette là, cette semaine, en début de semaine. Ragoût de boulette, une viande braisée. Tu n'as pas besoin d'avoir du sang, rôti de palette.
Ouais, j'aurais pas mis de sang, j'aurais mis peut-être même une pintade.
Quand on parle de sang, on parle de faire un parallèle entre une viande qui va avoir un côté plus sanguin, donc une viande rouge qu'on va avoir cuisinée, soit saisie, grillée, là, mais qui on va travailler la cuisson et on va garder un sang qui va, et ce sang-là qui va venir adoucir la trame tannique. Ici, on a des tanins super fondus, super soyeux, donc on n'a pas besoin d'aller, on a besoin d'aller sur une viande qui est très braisée.
Braisée, rôti, mais avec un jus. Avec un...
Ça prend de la sauce.
Ça prend vraiment de la sauce dans ce cas-ci. Là. Puis n'hésitez pas sur la sauce, là, votre jus de soit déglacé, votre jus de volaille ou votre jus de cuisson, là, ça va faire un très beau travail.
Oui, mais c'est le beau vin de temps des fêtes, ça.
Oui, ouais, tout à fait.
Puis même pour les gens qui. C'est sûr que souvent, on tente le pouls des sommeliers sur les accords mets et vins, ben la dinde, ben c'est sûr que ça prend du vin blanc. Mais après ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui boivent du blanc en mangeant à la table, mais ça, le ragoût de boulette, la dinde va survivre à ça avec un beau gravy, là, une belle sauce brune. Ouais. Là, la tourtière, là, c'est vraiment un vin qui va survivre à ça là, haut la main. Là, c'est...
Donc, on vous rappelle le 4, si le cœur vous en dit, on va vraiment déguster, on va jaser de la même façon qu'on le fait là, à des tables de dégustation. Il va y avoir deux ou trois autres cavistes qui vont se joindre à nous pour vous présenter quoi, une 25-30 produits.
Une vingtaine, entre 20 et 30 produits, on est en train de finaliser la sélection.
Pour votre période des fêtes. Sinon, on vous remercie encore. Mot de la fin, Louis?
Mot de la fin.
Non.
Merci.
Merci.
J'ai rien. Non, merci. Il y en a à rajouter. On va se faire un petit enregistrement avant le temps des fêtes. Puis j'ai sécurisé pour le prochain arrivage. Je vous laisse en suspens. Mais il y avait un salon des vins autrichiens qui a eu lieu il y a 3 semaines. Et il y a un vigneron d'Autriche qui est venu à la maison. On a dégusté ensemble. Et pour l'arrivage, on a un super sauvignon blanc d'Autriche qui va être... qui était sécurisé pour l'arrivage. C'est la seule chose qu'on a pour l'instant. Et peut-être une autre cuvée de Gabriel's Clouf, mais ça est encore pris aux entrepôts. Mais qui sait, on verra. Donc,
merci à tous.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.
Au plaisir.